Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de la Compagnie littéraire, consacrée aujourd'hui à Jean de La Fontaine. Le roi Louis XIV organise en ce moment un dîner. Sa majesté voit sa fête s'enorgueillir de moult célébrités. Nous retrouvons Madame Ville, sur place, qui va nous présenter les différents invités.
En ce 24 octobre 1686, le roi Louis XIV organise un repas privé en l'honneur de Monsieur de La Fontaine. Entre chimistes et fabulistes, toujours confondus, discutent. En effet, en cet instant, nous avons l'impression que tout conflit ont été comme suspendus l'espace d'une soirée. Cela donne une ambiance détendue. Le comité invité se compose de musiciens, physiciens, comme Antonio Vivaldi ou encore Isaac Newton. Le roi a placé à sa gauche Monsieur de La Fontaine. Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sur le nom de Molière, s'est placé à côté de son duo Lully, qui est compositeur. Le musicien et le Antonio Vivaldi s'est placé à côté de Isaac Newton. Et l'ambiance est plutôt joviale à ce moment-là.
Eh bien, ce dîner représente un enjeu politique pour améliorer les relations entre la royauté et son mécénat. Le roi a invité exceptionnellement Jean de La Fontaine. Nous rejoignons notre reporter Madame Jamon, qui a interviewé Jean de La Fontaine pour sa première fois à la cour du roi.
Bonjour Monsieur de La Fontaine. Je vous retrouve aujourd'hui, deux jours avant le grand dîner du roi auquel vous êtes convié, afin de faire plus ample connaissance avec vous. Tout d'abord, quel est votre travail ?
Bonjour. Eh bien, mon travail consiste à faire des fables, car vous le savez sûrement, je suis fabuliste.
Très bien, mais qu'est-ce qu'une fable ?
Je dirais qu'une fable est une histoire dont le but est d'illustrer une morale, qui souvent critique la cour, mais cela reste entre nous.
Très bien, mais qu'est-ce que vos fables représentent exactement ?
Les fables que j'érige avec mes personnages loufoques, des animaux anthropomorphiques, illustrent des personnes de la cour, des sentiments, des comportements, ou encore des expressions.
Et vous avez parlé de morale tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous les construisez ?
Mes morales ? Eh bien, c'est simple. Je contextualise le récit dans la morale, et en même temps, je donne une leçon de vie expliquant les problèmes de la société actuelle.
Et en me renseignant sur vous, j'ai appris que vous vous inspiriez des œuvres d'Ésope. Pouvez-vous me dire lesquelles ?
Presque toutes. À l'inverse, je métamorphose ces histoires afin qu'elles deviennent des pièces de théâtre.
On dit que vos fables se moquent de la bourgeoisie. Est-ce vrai ?
Bien sûr, je ne peux supporter ces bourgeois orgueilleux et imbus de pouvoir.
Dans ce cas, pourquoi le roi vous a-t-il invité à un tel dîner alors que vous vous montrez si distant face à la cour ?
Sûrement car mes fables se moquent d'une manière discrète, d'un tel point que le roi ne peut les comprendre et les trouve amusantes au point de m'inviter.
Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie que vous ayez pris de votre temps pour répondre à nos questions. Au revoir et profitez bien de ce dîner.
Merci. Ce dîner est un atout pour le roi. Il peut discuter avec les différents auteurs présents de la loi du dépôt légal qu'il a mise en place, il y a peu de temps. Madame Boyer, pouvez-vous, en tant qu'historienne, nous expliquer cette loi ?
Donc le dépôt légal impose aux imprimeurs de fournir deux exemplaires de leurs nouvelles impressions. Ils doivent les envoyer à la bibliothèque du roi. Le but étant de connaître qui a écrit quoi et de pouvoir contrôler cela pour éviter toute copie. Les imprimeurs qui ne vont pas appliquer cette loi sont passibles d'une amende, du fouet ou même condamné aux galères selon la gravité des propos imprimés.
Le fond musical sera joué par Vivaldi. Notre roi l'a invité pour ses croyances et je viens de me rappeler cette loi instaurée il y a peu, la révocation de l'édit de Nantes. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs cette loi ?
Donc la révocation de l'édit de Nantes, elle va permettre d'unifier la France sur tout ce qui concerne la religion. Elle a été mise en place le 18 octobre 1685. Son but est que le catholicisme devienne la religion principale en France. Comme vous le savez, depuis 1681, les protestants sont persécutés et ces lois vont permettre d'encadrer cette population.
Très bien, merci. Madame Ville, pouvez-vous nous décrire les plats présents à la table du roi en ce moment même ?
Je peux constater que la table du roi est très garnie. Légumes en sauce, riz de veau, langue de mouton, œufs farcis, entre bien d'autres. Mais ce qui est le plus intéressant sont les plats à place de pommes de terre, comme truffade avec sauce aux cèpes, gratin dauphinois, entre autres. Les desserts, eux, sont aussi très présents. Confiture, marmelade, millefeuille, tiramisu et chocolat, dans les plus appréciés de ces messieurs. Ce repas a été réalisé afin de mettre en valeur les nouveaux produits gastronomiques découverts.
Donc les invités auront l'honneur de manger des plats extrêmement raffinés, servis par les domestiques de la royauté. Ces employés, déportés directement d'Amérique, me font penser au Code Noir. Pouvez-vous nous rappeler son objectif, Madame Boyer ?
Le Code Noir a été écrit à Versailles le 5 mars 1685. Son but est de modifier le statut des esclaves français. C'est une idée qui vient de Colbert et qui consiste à placer les esclaves sous la protection de l'État, qui était jusque-là propriété de leur maître. Ils devront donc désormais être au service de l'État.
Ce dîner permet donc de célébrer l'entrée de Jean de La Fontaine à l'Académie française, même si sa présence est tout de même ironique à la table du roi. Je pense que Notre Majesté organise ce dîner pour renouer les liens avec ses invités et surtout avec Monsieur de La Fontaine. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine où vous pouvez retrouver ma collègue Henriette Carlier.